Bonjour, je m'appelle Ariel Greffard et je suis en compagnie de Duncan Hart Cameron. Bonjour.
Bonjour.
Il est enseignant en philosophie au Cégep de Saint-Jérôme depuis maintenant 5 ans. Ensemble, nous allons discuter de la Grèce antique. Mm-hmm. Ma première question, c'est, selon mes recherches, certaines cités, dont Athènes, vivaient dans un système démocratique. Mm-hmm. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la notion de démocratie à cette époque-là?
Oui, donc Athènes était justement démocratique. On parle d'une démocratie directe à cette époque. Donc, ce n'est pas un système qui est vraiment très similaire à le nôtre. Ce qu'il y avait, en général, c'est à peu près 10% de la population, de 30 000 personnes qui étaient des hommes, qui ont complété un service militaire, donc plus âgés, qui avaient le droit de participer dans toutes les institutions qui existaient, qui étaient des institutions démocratiques. Donc, ils pouvaient se présenter dans des grandes assemblées, par exemple, comme une assemblée d'étudiants.
Okay.
Puis, ils votaient directement sur des lois. Il y avait un tirage au sort pour occuper différents postes. Par exemple, chaque province, en quelque mm-hmm. sorte, d'Athènes, avait le droit, une fois par année, pendant un mois, d'occuper le poste de, disons, de direction du gouvernement. Donc, ils pouvaient mettre l'ordre du jour, puis décider sur les lois qui seront discutées lors de l'Assemblée générale populaire. Donc, il y avait une capacité pour ces citoyens mm-hmm. de vraiment participer directement dans les institutions pendant un an à la fois ou de participer spontanément dans une assemblée populaire quand ils voulaient. Et de voter sur les lois directement, que ce soit sur continuer une guerre ou mm-hmm. Que ce soit établir une loi sur la commerce ou des pénalités pour tel acte dans la société. Donc ça, c'est assez particulier. Leur système de justice fonctionnait de la même façon. Donc, les citoyens pouvaient siéger lors d'un procès en tant que juge.
Oh.
Donc, ils pouvaient juger directement le cas de quelqu'un qui se défendait directement devant ses concitoyens,
okay.
Sans avocat. Donc, c'était ce type de système. Puis, c'était basé sur le principe qu'en général, que la discussion et le débat pourraient amener une meilleure décision ou une meilleure réflexion qu'une personne toute seule. On pourrait dire que ça, c'est un aspect du principe philosophique derrière ça. Puis aussi, c'était une réaction politique contre des aristocrates, des hommes riches, qui mm-hmm. contrôlaient beaucoup trop la politique okay. à Athènes à une époque. Et donc, ils ont cédé le pouvoir au peuple pour justement les apaiser en quelque sorte.
Est-ce que vous croyez que cette notion démocratique-là, ça l'a influencé aujourd'hui comment les pays occidentaux voient la démocratie?
Oui, parce que je pense qu'on regarde cette époque, puis on est très inspiré par cette période qui fait partie de notre héritage, qui mm-hmm. fait partie de l'héritage de l'Occident. On est inspiré à savoir que c'est également l'époque où on a vu que Socrate, Platon, oui. Aristote a vu le jour. Donc, je pense que c'est une époque qui nous inspire et probablement ça c'est une espèce de mythologie autour de la démocratie aujourd'hui. Mais on est très, très, très loin de ces oui. systèmes-là. Donc, ça reste peut-être une influence un peu lointaine.
Vous avez parlé de Socrate, Platon. Est-ce que pour vous, c'est les plus grands philosophes qu'il y avait à cette époque-là?
Oh, il y avait énormément de grands penseurs. C'est sûr que c'est les grands penseurs que nous, on connaît aujourd'hui, qui ont mm-hmm. été retenus par l'histoire et qui sont très, très, très importants. C'est incontournable. Je pense que ce trifecta-là sont incontournables. Socrate, Platon, Aristote, on voit une pensée, une nouvelle façon de penser avec Socrate. De recentrer la réflexion philosophique sur des enjeux éthiques davantage au lieu de la physique des pré-socratiques. Avec Platon, un énorme travail de réflexion incroyable, également avec Aristote. Donc, oui, ils sont énormes.
Super. J'ai un petit peu exploré la notion de polis grecque qu'on
oui.
appelait.
Oui, oui.
Vous pouvez m'expliquer un peu davantage, c'est quoi la polis grecque?
Mais la conception, c'est une communauté de personnes qui se créent ensemble, qui est libre, qui est autonome. Puis, c'est une évolution qui a eu lieu petit par petit. On parle de... Surtout avant qu'on voit les cités-États, on voit la période mycénienne, par exemple, où c'est des royaumes, des rois, des choses comme ça. Puis, tranquillement, on voit une évolution vers d'autres formes de gouvernement. Puis, c'est des petits villages qui se mettent ensemble pour créer une police, une communauté. Et à l'intérieur de ce communauté-là, ils décident de créer leur loi, leur façon de faire, leurs mœurs. Ils ont une caractère qui se développe, qui leur distingue et influence la façon qu'ils interprètent la religion. Ils sont pas mal tous polythéistes.
Oui.
C'est la croyance dans les dieux grecs de cette époque, la nous on connaît plus par la mythologie grecque. Donc, mais il y a plusieurs différents dieux, puis chaque polis ou chaque communauté, cité-État dans le sens que c'est une cité, c'est une sorte de ville, mais c'est un État dans le sens qu'ils ont leur propre armée, leur propre loi, leur propre mœurs, comme j'ai dit, donc une façon de faire leur commerce qui est leur. Donc, ils se distinguent en tant que peuple, mais ce ne sont pas un pays comme nous on le connaît, okay. C'est à petite échelle. On voit des distinctions, parce que, par exemple, Athènes, qui est une grande cité-État sur la mer, qui est concentrée sur le commerce, qui est une centre pour énormément de commerce et énormément d'art et de personnes qui passent par là, qui devient un centre pour l'apprentissage aussi, avec l'installation de l'Académie de Platon. On voit que eux, c'est un culte de la déesse Athènes, Athéna, qui est la déesse de la sagesse. Puis on voit ça à travers les mœurs de la société à Athènes. Pour les Spartiates, ils vont concentrer davantage sur des dieux plus guerriers, parce qu'ils sont un peuple très guerrier, ils sont vraiment établis, ils ont organisé leur société au complet autour de la guerre et devenir guerrier. Donc, c'est juste la création de groupes de personnes qui se distinguent d'une certaine manière et qui commencent à vouloir établir leur loi. Puis on voit à Athènes, c'est démocratique, mais ailleurs, c'est pas nécessairement la démocratie du tout. Ça peut être une tyrannie, ça peut être donc un système très autoritaire, différents systèmes de gouvernement un peu ailleurs. Mais dans la psychologie des Athéniens, la démocratie semble cohérente.
Parfait. Vous nous avez parlé d'Athéna et aussi du dieu de la guerre. Est-ce qu'il y en avait d'autres dieux assez importants que vous pourriez nous parler?
La gamme des dieux de Zeus, Cronos, tu sais, les dieux de la mythologie grecque étaient importants pour les personnes, le peuple de ces régions-là. C'est plus l'idée de l'emphase qu'ils mettaient, ou l'importance qu'ils mettaient sur certains dieux ou sur la religion en général. Donc, il y avait certaines sectes qui étaient moins axés sur la religion, mais croyaient quand même dans ces dieux-là. D'autres qui acceptent davantage sur un dieu en particulier et peut-être étaient très croyants en général. Chaque cité-État avait sa culture.
Est-ce que c'est vrai de dire que les Grecs avaient une tendance à faire des abus, surtout sur l'alcool, la nourriture, la sexualité aussi?
L'idée de l'orgie vient de cette époque, mais je ne connais pas beaucoup là-dessus. C'est sûr que ça fait partie un peu de... Semble-t-il que ça faisait partie des mœurs à cette époque, mais je ne sais pas si c'était plus ou moins en comparaison avec notre époque à nous. Okay. On fait des déboires de notre façon aussi.
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du procès de Socrate?
C'est bien sûr un procès célèbre qu'on connaît surtout par les écrits de Platon, qui était un de ses disciples. Donc, semble-t-il que Platon était quelque part dans l'audience, on pense que c'était le cas. Et qu'on voit Socrate qui est amené en cour pour avoir été accusé d'impiété, donc de ne pas croire dans les dieux, et de corrompre la jeunesse, donc d'influencer la jeunesse à croire des choses qui n'étaient pas acceptables. C'est un procès très important parce que ce qu'on voit un homme qui est connu pour étant un sage à Athènes qui a utilisé une méthode très précise pour démasquer l'ignorance de ses concitoyens, qui a probablement fait beaucoup d'ennemis en faisant ça, et qui est amené devant ses concitoyens pour être jugé pour des crimes qu'il n'a pas vraiment commis. Et qui aurait pu se défendre avec la rhétorique. Il aurait pu, comme un bon avocat, il aurait pu faire appel à des émotions, des sentiments de ses concitoyens. Il aurait pu même échapper à toute pénalité s'il aurait voulu, parce qu'il était quand même apprécié par une grande partie. Puis c'est tous ses concitoyens qui sont devant lui, qui ont été là ce jour-là pour lui juger. Il aurait pu échapper. Ce qu'on voit avec sa personne, la façon que c'est représenté par Platon, c'est qu'il a resté fidèle à ses principes philosophiques, de ne pas persuader, mais d'argumenter philosophiquement, de rester fidèle à ses principes de justice. Et en faisant cela, ça fait éloge à la philosophie et au point où il était dédié à ses principes philosophiques, mais aussi, comment je dirais, il devient une sorte de martyr pour la philosophie. Et je pense que ça, c'est très important. C'était une forme de résistance. C'est une forme de... de sacrifice qu'il faisait qui résonne pour nous aujourd'hui parce qu'on voit dans sa personne quelqu'un qui a vécu jusqu'au bout ses principes philosophiques, même devant la mort. Donc, d'amener cette cohérence jusque-là, puis c'est très inspirant.
Ça s'entend justement, il a été mis à la peine de mort?
Tout à fait, il était tué. Il a attendu pendant quelques jours, quelques mois. Ça, je me souviens pas du période de temps parce que c'était une période d'abstinence des exécutions. Mais il a attendu quelques semaines, disons, puis ensuite il a été mis à mort par l'empoisonnement.
Vous avez dit qu'il corrompait la jeunesse? De quelle
façon? Il était accusé de... Okay. Ben, parce qu'il amenait, il avait une méthode de remise en question des croyances communes. Okay. Et donc, il utilisait cette méthode pour, par exemple, interroger quelqu'un, lui poser une question sur sa croyance quant à la définition de la justice, la définition du courage. Disons, poser une question à un politicien, c'est quoi la justice? Mm-hmm. Semble-t-il, c'est une question pertinente, parce que nos politiciens devraient connaître mm-hmm. la réponse à ça. Puis ensuite, de prendre la réponse à ce politicien-là, puis de démontrer que sa réponse est incohérente, contradictoire, mm-hmm. ne fonctionne pas. Puis il avait un groupe de disciples, de jeunes garçons qui lui suivaient partout, qui regardaient, qui écoutaient ces conversations-là, qui buvaient ses paroles, mm-hmm. et qui ensuite, probablement, essayaient d'utiliser la même méthode ailleurs avec leur père, par exemple.
Okay. Hein,
avec leur père autour de la table, à la maison. Puis ça enrageait énormément de personnes, semble-t-il, parce que c'est à l'air de jeunes hommes qui vont prendre le contrôle de la cité plus tard, qui remet en question toutes les mœurs, les traditions, les idées reçues. Mm-hmm. Puis ça, c'est dangereux dans une société. Tu vois, c'est... Donc, ça piquait les autorités.
Ces jeunes-là qui le suivaient, souvent, est-ce que c'était comme leur forme d'éducation? Plutôt qu'aller à l'école, je ne sais pas si elle existait à ce temps-là, mais c'était comme pour justement devenir les personnes, les citoyens.
Les éducateurs, à cette époque, si tu étais riche, tu pouvais payer pour des services d'éducation d'une sophiste, par exemple.
Okay.
Quelqu'un qui pourrait t'enseigner dans l'art de bien parler devant une audience, ce qui était très important parce mm-hmm. que la puissance politique passait par la parole. Si tu étais capable de convaincre l'audience devant toi, tu pourrais avoir la puissance, mm-hmm. et tu pourrais suivre tes idées. Donc, l'éducation d'une sophiste était assez populaire, assez commun pour des personnes riches. Justement, c'était coûteux, puis il fallait avoir du temps libre pour le faire. Je pense pas qu'on devrait penser à Socrate comme un enseignant parce qu'il ne recevait pas de l'argent pour ses services.
Okay.
Il ne faisait que la philosophie parce que c'était une profession de foi pour lui. Par, à un moment donné, d'avoir un message de l'oracle de Delphes, ben, semble-t-il, l'histoire apocryphale, c'est que son ami a demandé à l'oracle qui est l'homme le plus sage à Athènes, puis l'oracle, qui est une espèce de déesse, prêtresse plutôt, a répondu que c'était Socrate. Et Socrate, lui, ne se sentait pas ou ne pensait pas qu'il était sage, donc il a voulu interroger autrui, à savoir, à identifier quelqu'un qui était plus sage que lui. En interrogeant toutes les autres personnes autour de lui, il a compris que beaucoup de personnes pensaient connaître quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et lui, il savait qu'il n'avait pas de croyances. Il savait jusqu'où il avait des fausses croyances. Donc, c'est vraiment une profession de philosophie, pas dans le sens de recevoir de l'argent ou d'éduquer le peuple, mais vraiment de vivre et d'incarner les principes philosophiques et la méthodologie philosophique.
Mais ma dernière question, plutôt vous avez parlé que c'est Platon qui a écrit le procès
de... L'apologie de Socrate, oui, tout à fait.
Est-ce que c'est le seul qu'on connaît parce que c'est le seul qui l'a écrit ou c'est parce que c'est le plus populaire?
En fait, je ne connais pas d'autres comptes rendus de ce procès. C'est un domaine de la philosophie que je connais moins, c'est-à-dire l'histoire des figures philosophiques. Je n'ai jamais étudié ça plus que ça. Il y a véritablement un problème de préservation mm-hmm. De textes qui racontent des choses. Donc on sait qu'on a le texte intégral de Platon qui raconte en détail toutes les paroles de Socrate. Probablement, il y a une partie qui est inventée.
Okay.
Mais il y a d'autres sources qui confirment quand même les faits. C'est-à-dire qu'il a été amené en cour, il était accusé de telle chose. Mm-hmm. Donc on peut avoir d'autres sources qui confirment certains aspects. Je ne connais pas d'autres sources, par contre, qui racontent le procès en tant que tel.
Je vous remercie d'avoir discuté avec moi de l'agression antique aujourd'hui. Bonne fin de journée.
Ça me fait plaisir.